Et Aïmakov et Assiter, c'était qui vos principaux collaborateurs, les gens avec qui vous avez beaucoup travaillé?
Alors, Imakov, bon, bah, évidemment, Jean-Pierre Berton, Corinne Larue, Sabine Greulich, et puis après, dans les. Alors, il y a eu dans les arrivants, mais j'ai moins travaillé avec elle, Francesca Di Pietro, et puis Mathias Vansen, quand il est arrivé. Et puis, à Imakov, on a eu la chance d'avoir des professeurs associés. Donc, notamment Michel Baqui, qui a un bureau d'études sur Chinon. Et puis, alors il n'est plus avec nous, Eri Andria Maefa, qui était à l'agence de l'eau Seine-Normandie et qui faisait beaucoup travailler les étudiants sur la Carto à l'époque. C'était aussi quelqu'un avec qui j'ai pas mal échangé. Et puis après, à Citer, ben, beaucoup les gens de l'équipe de date. Donc, ben, évidemment, on va retrouver Sabine, Sylvie Servin, ouais, surtout Sabine et Sylvie. Et puis après, ben, les différents collègues. Voilà, en fonction, avec des affinités, en fonction des sujets, en fonction des opportunités. Diverses et variées, quoi. Et puis, j'ai eu aussi la chance de travailler, de monter un projet avec des collègues de Polytech, mais en informatique, du l'IFAT, avec Pierre Gaucher et puis Donatello Conte, où là, on avait. Alors, ça, c'était en 2017 ou 16, 16. Je leur avais demandé. Si à partir de photos aériennes, on pouvait, grâce à l'intelligence artificielle, reconnaître les formes des poissons dans l'eau. Et en l'occurrence, ce que je voulais, c'était qu'ils me reconnaissent les silures, parce que c'est gros.
Et ça a marché?
Eh bien, ça n'a pas marché parce qu'en fait, je n'avais pas assez d'images contenant des poissons. Même si on pouvait faire un quart de tour, un demi-tour à l'image pour essayer d'augmenter, etc. J'en avais pas assez. Et la deuxième raison qui a fait que ça n'a pas fonctionné, c'est que il y avait quelquefois pas assez de contraste entre la couleur du poisson et la couleur du fond. Et Pierre m'avait dit, si Catherine, avec tes yeux, tu vois pas. Pour le moment, l'intelligence artificielle, ce qu'on a, nous, ne le verra pas non plus. Donc, ça n'a pas marché, mais c'était très intéressant. Parce que, bah, on a fait des scans de la Loire. L'eau était super transparente, évidemment. On avait choisi toutes les bonnes conditions. Hein. Bon, bah, ils ont eu toutes les images. Moi, je me suis tapé aussi toutes les images à regarder une par une. Donc, quelques milliers, voire dix de milliers.
Pour voir s'il y avait bien
Pour voir s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas, pas se tromper avec un tronc d'arbre, avec un reflet, une ombre. Enfin, bon, voilà. Mais c'était vraiment très, très intéressant. Et puis, bah, quand j'avais 10 images avec des poissons, hop, je leur refilais. Mais bon, bah, il n'y en a pas eu assez, quoi. Il en faut des milliers et des milliers. Et moi, j'en avais pas des milliers, quoi. J'en avais à tout casser une centaine. C'était pas suffisant, quoi. Voilà. Donc, mais c'était très intéressant de travailler avec eux, quoi. Ouais, ça.
Et vous êtes aussi occupé de la gestion du master Imakov, ingénierie des milieux aquatiques et des corridors fluviaux.
Oui, alors très tôt, ça c'était une chose intéressante dans la formation Imakov, c'est qu'on pouvait prendre des responsabilités administratives. Donc très tôt, j'ai eu la responsabilité du recrutement dans la formation, que j'ai gardée quasiment tout le temps, je pense. Et puis, quand Corinne Larue est partie à Paris, bah, j'ai pris la responsabilité de la formation. Et là, donc c'était bien un master à ce moment-là. Et j'ai notamment, avec l'équipe, porté le transfert du master Imakov dans Polytech Tours avec le département aménagement, qui du coup s'est appelé aménagement environnement. Parce que du coup, ça faisait deux options plus aménagement urbanisme et deux options plus environnement, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'était intéressant. Ça m'a épuisée. Mais bon. Les enfants ont bien râlé à ce moment-là.
La gestion administrative, ça peut être
Chronophage, ouais.
Ouais.
Et énergivore.
Exactement.
Ouais, c'est sûr.
Et le rapport avec les étudiants, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aimé? Parce que vous avez enseigné, du coup, dans le master.
Oui, j'ai enseigné majoritairement dans le master. Un petit peu à l'IUT aussi. Et puis, le master et l'IUT, pour faire court. Et puis si, dans le master, géo-hydrosystème, j'ai HED des géologues, j'ai fait aussi... Et puis si, au tout début, j'ai enseigné en deuil de géologie, la partie zoologie. Et on m'avait dit, tu choisis des espèces animales ou des groupes animaux qu'on va retrouver sous forme de fossiles. Et t'essayes évidemment, tu présentes comment c'est construit, etc., comment ça se développe, mais aussi l'écologie actuelle. Et ça, j'avais beaucoup aimé, parce que c'était vraiment intéressant essayer de montrer que ce qu'ils allaient retrouver sous forme de fossiles, c'était toujours vivant, et que si c'était des coraux, ça va construire les barrières de corail, etc. Donc, c'était intéressant. J'ai oublié la question, excusez-moi.
Si vous avez aimé l'enseignement, rapport avec les étudiants.
Je crois que j'ai passé plus de temps à l'enseignement. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait, de transmettre des choses aux étudiants. Puis les relations se faisaient facilement, quoi. Donc, là, j'ai bien vu les retours super agréables des étudiants. Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours... J'étais toujours disponible pour les étudiants, parce que j'estimais que ça faisait partie de mon travail, que s'ils avaient aussi des problèmes personnels, je pouvais être là pour écouter, éventuellement après aiguiller sur un service de l'université ou éventuellement un collègue ou faire des suggestions. Mais il y a eu des moments où ça n'a pas toujours été facile, mais il y en a qu'on a un peu tiré par les cheveux pour pas qu'ils fassent de bêtises, quoi. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est les différences entre formation continue pour adultes à Chinon et puis les formations initiales, quoi. Et c'était complètement différent, mais c'était enrichissant de manière complémentaire, quoi. Parce que quand vous travaillez avec des gens et que notamment la première fois vous êtes tout jeune, vous venez d'arriver et on vous dit « Ouais, je fais partie des gens qui ont drainé le marais Poitevin », vous vous dites « Ah, il se présente comme ça le monsieur ?» ou « Bon, va falloir faire attention !» Mais arrondir un peu certaines choses pour... Moi, j'ai été extracteur de gravier dans le Cher toute ma vie. Et là, maintenant, j'ai envie de changer. Bon, c'est devenu un très bon ami.
Comme quoi ?
Comme quoi, hein. Voilà, parce qu'en fait, il réalisait son rêve de jeunesse. Le monsieur à 50 ans, il réalisait son rêve de jeunesse, quoi. Donc, c'était intéressant de pouvoir échanger, en dehors des heures de cours, pourquoi ils avaient fait ça, comment, et pourquoi moi je leur apprenais des choses. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'en cours, tant qu'ils n'avaient pas compris, ils ne me lâchaient pas. Et ça, c'est super. C'est comme ça que c'est intéressant. C'est que si vous n'êtes pas clair, ça ne va pas. Donc, mais eux, ils ne lâchaient pas, quoi. Tandis que les étudiants, il y a des fois, on voit bien les têtes. On vous dit, je ne suis pas sûre. Vous avez compris? Silence radio. Ou bon, alors hop, on recommence. Mais tandis que là, c'est ça que j'ai le mieux aimé, c'est que les gens, ils ne vous lâchent pas. Donc c'est bien. Là, on se dit, je fais... C'est vraiment intéressant parce que ça m'oblige à recogiter la façon dont je vais expliquer, trouver des choses peut-être plus simples, pas faire trop de discrétion peut-être, Donc les deux étaient vraiment intéressants.
Et à Chinon, c'était quoi le sujet de la formation continue?
C'était un diplôme d'université, je ne sais plus s'il s'appelait Imakov, je ne me rappelle plus. C'était en 2 ans, c'était une formation pour adultes, et en fait, au départ, M. Berton l'avait conçu comme un complément de formation, en plus en écologie et fonctionnement des cours d'eau, pour les gens qui voulaient faire pilote de bateau. Et après, au fur et à mesure, ça a évolué vers les techniciens de rivière, restauration en génie écologique. Voilà. Et ben, là, c'est vrai que ben, les conditions étaient différentes, donc il y avait quand même pas mal de terrain, avec des chantiers qu'on pouvait faire. Voilà. Donc c'était des gens qui avaient tous soit fait autre chose, voilà, qui n'étaient pas tout jeunes, et qui avaient une expérience aussi, une autre expérience, et sur laquelle on pouvait échanger, partager. C'était vraiment...
Ouais, des gens plus investis qui savaient pourquoi ils étaient là.
Voilà, et qui avaient vraiment fait le choix de cette formation continue. Donc, voilà, ils en voulaient pour ce qu'ils étaient venus chercher, quoi. Donc, c'était intéressant.
Alors, c'est bien, vous avez répondu à plein de mes questions déjà. peut-être en 2004... Vous avez publié un article sur les effets de la canicule 2003 sur la température de l'eau de la Loire moyenne dans le cadre d'un colloque. Et ça fait maintenant 20 ans. Et quelle a été l'évolution depuis? Comment vous regardez l'évolution sur ces 20 dernières années?
Eh bien, si on... Alors, ces mesures de température, ce sont des mesures de température de l'eau de la Loire sur la station amont de la centrale d'Avoine. L'université de Tours a eu différents contrats avec la centrale d'Avoine pour faire les suivis. On a eu pendant plusieurs années, justement, avec les collègues de... Ah ben si, on a travaillé ensemble avec les collègues de géologie. Elles étaient chargées de la chimie des eaux, chimie des sédiments, hydrologie et température avec Florentina Moitard. Chimie des eaux, c'était Nathalie Gassama. Et puis, Nina Richard du CETUELMIS de Chinon et moi, on était en charge, Nina de la partie invertébrée et moi de la partie poisson. Donc, la partie poisson, ben, on n'a pas le matériel à l'université, donc on faisait de la sous-traitance avec un bureau d'études, mais c'était moi qui faisais les analyses. Donc, on avait des conventions avec EDF qui nous permettaient d'avoir accès aux températures de l'eau à l'amont et à l'aval de la centrale. Donc, le gros avantage, c'est que c'était quotidien, bien suivi, quoi. Il n'y avait pas de trou ni rien dans les données, c'était nickel. Et puis, le gros avantage aussi, c'est que ça a commencé pratiquement dès le début du suivi. Et donc, ce sont des séries de données qui sont antérieures à celles que les DREAL, par exemple, ont pu faire, quoi. Donc, c'est ça aussi ce gros intérêt-là. Donc, ce qu'on constate, c'est que de 1980 à 2000, on a une certaine évolution de la température de l'eau. Et puis, entre 2000 et 2020, enfin 2002, il faudrait que je retrouve précisément, jusqu'dans les années 2020, on a une allure de la courbe qui est la même, mais on est en moyenne de 2 degrés au-dessus de ce qu'on avait auparavant. Alors, ces 2 degrés ne sont pas permanents. Il y a des périodes de l'année où il y a un peu moins, hiver, par exemple. Et puis, il y a des périodes où il y a un peu plus, notamment en été. Voilà. Donc, ça donne quand même des augmentations de température qui vont influer sur les cycles de vie de certaines espèces, sur la présence ou l'absence de certaines espèces, et qui vont globalement favoriser les espèces qui supportent des températures, qui sont capables de supporter des températures largement au-dessus de 20 degrés, quoi. On est quand même arrivé à des 28 degrés dans la Loire, c'est énorme, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que notre faune et notre flore elles soient adaptées à ça. Et puis, ce qui va automatiquement avec, c'est qu'il y a un lien entre température de l'eau et concentration en oxygène dans l'eau. Plus la température augmente, moins on a d'oxygène. Simplement d'un point de vue physique. Donc si on rajoute la consommation qui va augmenter par les êtres vivants, notamment les animaux, parce qu'il fait plus chaud et qu'il faut s'entretenir, on peut se retrouver avec des périodes de l'année où on peut avoir des petits déficits en oxygène et qui peuvent conduire à une mortalité, soit des invertébrés, soit des poissons. Alors nous, les humains, on ne le voit peut-être pas forcément, Hein, tant qu'il n'y a pas des grosses mortalités, comme on a pu voir des fois à Nantes, où boum, vous avez plein de poissons qui dérivent, bon, là c'est catastrophique, ça se voit. Mais quand c'est des invertébrés, il n'y a personne qui voit. Hein. Donc c'est, ça peut être problématique. Et ce à quoi il faut penser, c'est que ça risque de revenir de plus en plus souvent. Voilà. Et associé à ces différences de température de l'eau, on a aussi des différences de... Comment de, alors, de débit au sens large, dans le sens où je vais avoir des périodes, un débit moyen qui va diminuer, mais si on regarde d'un peu plus près ce que j'ai fait, par exemple, pour la migration de montaison des aloses et pour la migration de dévalaison des anguilles, c'est-à-dire que je vais avoir une durée... Alors, chaque espèce d'animal, sauf les oiseaux et les mammifères, dispose, on va dire, de seuils de température qui vont gérer son activité, en général, sa prise alimentaire, sa reproduction, etc. Alors, il y a des seuils bas, mais il y a aussi des seuils hauts. Et si le seuil bas, il est franchi plus précocement, bon, bah, tant mieux, mon poisson il va remonter un peu plus tôt dans le cours d'eau. Mais si le seuil haut il est aussi franchi plus précocement, il va s'arrêter. Il n'a peut-être pas encore eu le temps d'aller rejoindre ses zones de frayère. Et si en plus mon seuil haut il est franchi 3 semaines plus tôt que le... Alors, comment je vais dire ça? J'ai mon seuil bas qui a avancé. Mon seuil haut qui a aussi avancé. Mais il a avancé, si le premier il a avancé 10 jours, l'autre il a avancé 3 semaines. Donc j'ai un rétrécissement de la période favorable. Donc bah, les poissons, ça veut dire que pour certaines espèces, elles n'ont peut-être pas le temps de remonter sur les zones de frayère, ou elles n'ont plus le temps. Donc elles vont s'installer pour la reproduction dans des endroits qui sont peut-être plus aussi favorables. Donc la reproduction, elle aura peut-être lieu, mais le taux de survie des jeunes, il n'est peut-être pas... Il est peut-être pas des œufs, des jeunes, etc. Il est peut-être plus ça, quoi. Et donc ça, c'est des choses. Ça serait bien que ce soit puisse être modélisé pour mieux quantifier l'impact de l'augmentation et de la température et de l'évolution des débits sur les migrations des poissons. Pour les anguilles, par exemple, elles sont dans la littérature. On reconnaît que le plus gros des départs vers la mer, il se fait avec les premières crues d'automne. Donc là, on a un départ très important de poissons. Si on regarde la période d'étiage, donc de basses eaux de la Loire, cette période, elle s'allonge. Alors, pas 2024, hein, mais les années précédentes, hein, depuis 2020, ça s'allonge. Je crois que c'est 2023 ou 2022, la première crue, elle est arrivée au mois de décembre, alors que normalement, elle arrive au mois d'octobre. Donc, ça veut dire que les poissons, ils vont circuler, mais pas forcément dans les bonnes conditions. Et puis que, peut-être après, il va y avoir un gros départ massif. Donc, ça change complètement les rythmes de circulation des espèces, et ça aussi, il faut en tenir compte, quoi. Et donc, on a travaillé avec les collègues du muséum là-dessus. Ils ont réussi une année à obtenir qu'on puisse travailler, faire fonctionner une pêcherie d'anguilles d'avalaison. Je vais revenir là-dessus après. Si possible, toute l'année, parce que normalement, ce n'est pas autorisé toute l'année. Et on s'est rendu compte que on avait un décalage en fait de la descente des anguilles, un peu plus, de plus en plus, alors comme on veut, soit tard par rapport à la période de migration, soit tôt dans l'année, quoi. Enfin bon, voilà, on prend les choses par un bout ou par l'autre, quoi. Alors sinon, ce que je voudrais rajouter, c'est que pour mes travaux de recherche, j'ai beaucoup, alors tout ce qui était sur les poissons migrateurs, en fait, j'ai travaillé beaucoup avec les pêcheries professionnelles fluviales de Loire. Aussi bien en Loire-Moyenne qu'en Basse-Loire. Et le partenaire principal, c'était donc les pêcheurs professionnels et puis le Muséum national d'histoire naturelle, la station d'Inard, puisque là, il y a une équipe qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les poissons migrateurs un peu partout. On va dire, bon, en Bretagne, bien sûr, beaucoup la Loire aussi, un peu moins sur Garonne-Dordogne parce qu'il y a l'INRAE, mais voilà, ils ont beaucoup.
Voilà. Et c'était bien accepté, ces relations
Alors, avec du côté des pêcheurs, sans problème, ouais. C'était vraiment intéressant parce que y a un savoir-faire dont on peut bénéficier. Il y a eu des relations de confiance qui ont été établies. On a pu bénéficier de chroniques de pêche anciennes. Les gens ont bien voulu donner leur carnet de pêche. Pour certaines activités, quand vous avez quelqu'un qui est tous les jours sur l'eau, qui vous donne les retours de ses captures, vous ne pouvez pas vous payer ça en tant que scientifique. Ce n'est pas possible. Ni l'équipement, ni le salaire de la personne, ni quoi que ce soit. La personne a le savoir-faire, s'il y a une crue, comment il faut faire, elle sait faire. Hein. Vous, vous ne savez pas, en tant que scientifique, ce n'est pas possible. Par contre, là où ça n'a pas toujours été facile, c'est auprès de certains collègues, alors pas forcément à l'université de Tours, hein, mais auprès de certains collègues qui ont du mal à accepter ce type de partenariat. Ça va passer dans le domaine de l'informatique. Mes collègues en informatique, ils peuvent travailler avec des entreprises privées, en mécanique aussi. Mais dans le domaine de l'écologie, c'est pas très bien vu, on va dire. Hein. Voilà, pour dire les choses, faire un peu court. Et puis, auprès de certaines administrations, ça passe pas très bien non plus. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est très formateur, du coup. Ça oblige à être blindé, faire très très attention à tout ce qu'on peut dire ou faire en tant que chercheur, à ses protocoles et tout ça. Et puis par rapport à d'autres acteurs, ça ouvre aussi des perspectives, quoi. C'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, une des particularités aussi de mon parcours. C'est pas fréquent, hein, je le sais. Voilà.